Marguerite Duras.
Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Absente, c'est comme ça écrit tout le temps, c'est-à-dire c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la proie, la victime. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal.
Ça peut pas faire de mal.
Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. On ne peut pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas. On n'est personne dans la vie vécue. On est quelqu'un dans les livres. Et plus on est quelqu'un dans les livres, moins on est dans la vie vécue.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
J'avais deux frères et mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec deux frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent.
On ne sait pas quand les choses sont là dans la vie. Ça échappe. C'est exactement ce que je ressens. Ma vie est un film doublé, mal monté, mal interprété, mal ajusté, une erreur en somme. Un polar sans tuerie, sans flic ni victime, sans sujet aucun. Il pourrait être un vrai film dans ces conditions et non, il est faux. Allez savoir ce qu'il faudrait pour qu'il le soit. Que je sois sur une scène sans rien dire, à me laisser voir, sans penser spécialement à quelque chose. C'est ça. Extrait de la vie matérielle. En novembre dernier, l'une des romancières les plus énigmatiques du XXe siècle faisait son entrée dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Il s'agit de Marguerite Duras, qui a su inventer un langage bien à elle, un style unique, musical et hypnotique, qui lui a valu les pires critiques, mais aussi les plus belles reconnaissances.
Le prix Goncourt, la plus célèbre des distinctions littéraires, le prix Goncourt 1984 a été décerné à Marguerite Duras. À l'âge de 70 ans, Marguerite Duras est ainsi récompensée pour son roman « L'amant ».
Aujourd'hui donc, premier volet de 2 émissions consacrées à l'œuvre fascinante de Marguerite Duras. Cette fille d'enseignant, née en Indochine en 1914, petite dernière d'une fratrie de 3 enfants, va entrer en littérature un peu par hasard en 1943 avec son premier roman « Les Impudents ». Dès lors, la création littéraire devient vitale. L'un de ses maris, Robert Anthelme, aura d'ailleurs cette formule. Si vous ne lui dites pas qu'elle est un écrivain, elle se tuera. Ce soir, abordons son œuvre sous l'angle de l'intime et de ses grands sujets d'inspiration, l'amour, le désir, les souvenirs d'enfance, la famille. Redécouvrons quelques-uns de ses plus grands textes en compagnie d'un immense comédien qui la connaissait bien, le célèbre interprète du vice-consul de Lahore dans India Song, et une des voix que j'aime le plus au monde. Bonsoir, Michael Lonsdale.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Commençons cette première émission par l'un de ses thèmes de prédilection, la rencontre amoureuse. Extrait du Ravissement de Lolf Wittstein, 1964. C'est l'un des romans les plus énigmatiques de Marguerite Duras. Elle le définissait d'ailleurs comme un livre à part, un livre seul. Écrit en quelques mois dans sa maison de Trouville, ce roman a donné lieu à de multiples interprétations. Le célèbre psychanalyste Jacques Lacan en a même fait un cas d'étude. Le mystère du roman tient en une seule scène, celle du bal. Lola Valérie Stein s'y rend avec son fiancé Michael Richardson et sa meilleure amie Tatiana Karl. Alors que la fête bat son plein, une inconnue fait son entrée et hypnotise totalement Michael Richardson. Lol assiste alors impuissante au ravissement de l'homme de sa vie par cette femme dont elle ne sait rien.
Qui était-elle? On le sut plus tard. Anne-Marie Streeter. Était-elle belle? Quel était son âge? Qu'avait-elle connu, elle, que les autres avaient ignoré? Par quelle voie mystérieuse était-elle parvenue à ce qui se présentait comme un pessimisme gai, éclatant, une souriante indolence, de la légèreté d'une nuance, d'une cendre? Une audace pénétrée d'elle-même, semblait-il, seule, la faisait tenir debout. Avait-elle regardé Michael Richardson en passant ? L'avait-elle balayé de ce non-regard qu'elle promenait sur le bal ? C'était impossible de le savoir. C'est impossible de savoir quand, par conséquent, commence mon histoire de l'Alvestein. Le regard chez elle logeait dans toute la surface des yeux. Il était difficile à capter. Elle était teinte en roux, brûlée de rousseur, ève marine, que la lumière devait enlaidir. S'était-il reconnu lorsqu'elle était passée près de lui ? Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu'il l'invita à danser pour la dernière fois de leur vie, Tatiana Karl l'avait trouvé pâlie et sous le coup d'une préoccupation subite, si envahissante, qu'elle sut qu'il l'avait bien regardée, lui aussi, la femme qui venait d'entrer. Lol, sans aucun doute, s'aperçut de ce changement. Elle se trouva transportée devant lui, parut-il, sans le craindre, ni l'avoir jamais craint, sans surprise, la nature de ce changement paraissait lui être familière. Il était devenu différent. Tout le monde pouvait le voir, voir qu'il n'était plus celui qu'on croyait. Lol le regardait changer. Les yeux de Michael Richardson s'étaient éclaircis, son visage s'était resserré dans la plénitude de la maturité, de la douleur, s'il disait, mais vieille, du premier âge. Aussitôt qu'on le revoyait ainsi, on comprenait que rien, aucun mot, aucune violence au monde n'aurait eu raison du changement de Michael Richardson. Elle commençait déjà, la nouvelle histoire de Michael Richardson, à se faire. Cette vision et cette certitude ne parurent pas s'accompagner chez Lol de souffrance. Tatiana la trouva elle-même à changer. Elle guettait l'événement, couvait son immensité, sa précision d'horlogerie. Lol dansa encore une fois avec Michael Richardson. Ce fut la dernière fois. La femme était seule, un peu à l'écart du buffet. Sa fille avait rejoint un groupe de connaissances vers la porte du bal. Michael Richardson se dirigea vers elle dans une émotion si intense qu'on prenait peur à l'idée qu'il aurait pu être éconduit. Lol, suspendue, attendit elle aussi. La femme ne refusa pas. Ils étaient partis sur la piste de danse. Lol les avait regardés, une femme dont le cœur est libre de tout engagement, très âgée, regarde ainsi ses enfants s'éloigner. Elle parut les aimer. Tatiana était restée auprès de Lol. Lol avait instinctivement fait quelques pas en direction d'Anne-Marie Streeter, en même temps que Michael Richardson. Tatiana l'avait suivi. Alors, elles virent. La femme entr'ouvrit les lèvres pour ne rien prononcer, dans la surprise émerveillée de voir le nouveau visage de cet homme aperçu le matin. Dès qu'elle fut dans ses bras, à sa gaucherie soudaine, à son expression abétie, figée par la rapidité du coup, Tatiana avait compris que le désarroi qu'il avait envahi, lui, venait à son tour de la gagner. Lol était retournée derrière le bar et les plantes vertes, Tatiana avec elle. Ils avaient dansé, dansé encore, lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule. Elle, plus petite, ne regardait que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé. La première danse terminée, Michael Richardson s'était approché de Lol, comme il avait toujours fait jusque-là. Il y eut dans ses yeux l'imploration d'une aide, d'un acquiescement. Lol lui avait souri. Puis à la fin de la danse qui avait suivi, il n'était pas allé retrouver Lol. Anne-Marie Streeter et Michael Richardson ne s'étaient plus quittés. Lol restait toujours là où l'événement l'avait trouvé lorsque Anne-Marie Streeter était entrée derrière les plantes vertes du bar. Tatiana, sa meilleure amie, toujours aussi, caressait sa main posée sur une petite table sous les fleurs. Oui, c'était Tatiana qui avait eu pour elle ce geste d'amitié tout au long de la nuit. Avec l'aurore, Michael Richardson avait cherché quelqu'un des yeux vers le fond de la salle. Il n'avait pas découvert Lol. Il se passa la main sur le front, chercha dans la salle quelques signes d'éternité. Le sourire de l'Alvestein, alors, en était un, mais il ne le vit pas.
Où êtes-vous? Que faites-vous? Où êtes-vous perdu? Où vous êtes-vous perdu tandis que je crie, que j'ai peur? On dit que vous vivez sur une de ces îles des côtes de la France et encore ailleurs. On dit que vous êtes dans une terre équatoriale où vous seriez mort il y a longtemps, dans la chaleur.
Découvrons à présent la naissance du désir du point de vue masculin. Extrait de la nouvelle « Les chantiers » publiée en 1954 dans l'unique recueil de nouvelles de Marguerite Duras intitulé « Des journées entières dans les arbres ». Ce récit méconnu est l'un des rares textes d'inspiration non biographique de l'écrivain. Mais il porte en lui les prémices des grands thèmes que l'auteur ne cessera d'explorer dans la suite de son œuvre, le désir physique et la mise en abîme du regard. Ici, un homme regarde une femme qui regarde ailleurs, comme l'Alvestein regarde un homme regarder une autre femme. Dans un hôtel à la campagne, en bordure d'un mystérieux chantier, il s'agit, sans qu'il soit jamais désigné explicitement, de l'agrandissement d'un cimetière, un inconnu observe de loin une jeune femme, elle-même étrangement attirée par ce lieu. Bientôt, la fascination fait place à l'obsession. L'homme se reprocha de ne pas l'avoir encore abordée, de prolonger ainsi le plaisir douteux qu'il goûtait à ne rien décider. Il n'avait pas le moindre prétexte pour retarder le moment. Simplement, il était toujours possible de remettre ce moment à plus tard. Lorsqu'il y pensa cette nuit-là, il eut peur. À la pensée que peut-être il ne connaîtrait jamais la jeune fille, le fantôme de sa propre forme solitaire surgit des ténèbres. Il aurait bien aimé que se développât et se précisât cette peur, mais elle se jouait de lui et il n'y parvint pas. Peut-être était-ce justement un retour sous d'autres apparences de la peur que, grâce à elle, il n'éprouvait pas devant le chantier. Oui, cette peur nocturne pouvait bien être la même chose que la peur qu'elle, pour sa part, n'éprouvait que devant le chantier. Il finit par se rassurer. Il se dit qu'elle ne pouvait pas partir avant qu'il ne se passât entre eux quelque chose, et que cela ne pouvait plus tarder, que la peur qu'il venait d'éprouver était précisément un des signes que ce moment approchait. Ce fut le lendemain, après le repas de midi, qu'il se trouva non loin d'elle dans le fumoir. D'habitude, elle ne s'attardait pas après les repas et regagnait sa chambre ou sortait aussitôt le déjeuner fini. Ce jour-là, était-ce l'ennui ? Elle s'y attarda un moment. Elle lui tournait le dos. Il vit que ses cheveux noirs étaient noués négligemment dans le bas de son cou. C'était la première fois depuis leur rencontre qu'il se trouvait aussi près d'elle. La première fois qu'elle se trouvait si proche de lui qu'il aurait suffi d'un geste pour la toucher. Il ne songea pas sérieusement à faire ce geste. Mais il pensa qu'il aurait pu, par exemple, s'il l'avait voulu, en se levant pour sortir du fumoir, frôler son coude qui reposait sur le bras du fauteuil. Il ne fit pas ce geste. Il resta assis où il était. Il la regardait, il regardait ses cheveux négligés qu'elle négligeait. Il ne crut pas que ses cheveux étaient particulièrement négligés ce jour-là. Il pensa au contraire qu'il devait toujours en être ainsi. Toujours ces cheveux-là devaient être prêts à se dénouer. À un moment donné, elle se pencha en avant, ses cheveux se soulevèrent et caressèrent sa nuque. Il put voir que le col de sa blouse était légèrement sali à l'intérieur par le frottement du cou. Cela déclencha soudain en lui une émotion très grande. La vue de ce col sali et froissé par ce cou, cette nuque à moitié cachée par ses cheveux, ce linge, et ses cheveux et ce cou qui pouvaient le salir, ces choses qu'il était seul à voir, qu'elle ne savait pas qu'il voyait, qu'il voyait mieux qu'elle, lui fit revivre la situation qu'il avait connue le soir de leur rencontre face au chantier. C'était comme s'ils avaient été deux à vivre dans ce corps qu'elle avait et qu'elle l'eût ignoré encore en ce moment. Dans la nuit qui suivit cette journée, le souvenir de cette minute prit en lui l'allure du désir. Sans doute la désirait-il depuis le premier jour, depuis le premier moment, dès qu'ils s'étaient retrouvés tous les deux seuls dans l'allée, dans l'ombre. Mais ce désir maintenant fut tout de suite si vif qu'il en vint à la souhaiter, plus distraite encore qu'elle ne l'était de la vie qui se vivait en elle. Ainsi, le moment venu, pourrait-il la surprendre plus entièrement encore, user plus pleinement d'elle, disposer plus totalement de ce corps jusqu'à leur tenue dans la souveraine négligence où il l'avait déjà surpris. Cette nuit-là, il lui fut difficile de dormir. Il considéra son propre corps frappé par le désir. Le voir, c'était comme s'il voyait déjà le sien à elle, comme si dans ses bras s'étaient coulés les siens. Il se laissait faire. Son corps était doué de volonté, de parole. Il disait avec calme qu'il la voulait. Alors, comme jamais encore, l'homme se sentit uni à lui-même par l'effet d'une violence rassurée et tranquille.
Je peux vous poser une question ?
Oui.
Quelle différence y a-t-il entre un homme et une femme ?
Marguerite Duras.
La tristesse est du côté de la femme. La rêverie est du côté de la femme. La sorcellerie est du côté de la femme.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
À l'origine du thème du désir, voici un souvenir d'adolescence qui a inspiré l'œuvre de Duras, extrait d'une autre nouvelle, Le Boa. Ce récit appartient au même recueil de nouvelles des journées entières dans les arbres. Il relate un souvenir particulier de la jeune Marguerite Donadieu, alors élève au lycée français de Saïgon, et interne dans une pension tenue par l'austère Mademoiselle Barbet. Chaque dimanche, alors que les autres pensionnaires rejoignent leur correspondante en ville, la jeune fille subit le même rituel. Le matin, une visite aux eaux où elle assiste à la dévoration d'un poulet vivant par un boa. Et l'après-midi, un étrange goûter chez la vieille fille.
Lorsque nous rentrions à la pension, toujours trop tôt à mon gré, une tasse de thé et une banane nous attendaient dans la chambre de la Barbet. Nous mangeions en silence. Je remontais ensuite dans ma chambre. Ce n'était qu'au bout d'un moment que la Barbet m'appelait. Je ne répondais pas tout de suite. Elle insistait.
« Viens voir un peu. »
Je me décidai. Je retournais dans sa chambre. Je la trouvais toujours au même endroit, devant sa fenêtre, souriante, en combinaison rose, les épaules nues. Je me postais devant elle et la regardais comme je devais le faire, comme il était entendu que je devais le faire chaque dimanche, après qu'elle avait bien voulu m'emmener voir le bois.
« Tu vois ?»
me disait Mademoiselle Barbet d'une voix douce.
« Ça, c'est du beau linge. Je l'ai acheté hier. J'aime le beau linge. »
soupirait-elle.
« Plus je vais, plus je l'aime. »
Elle se tenait bien droite pour que je l'admire, baissant les yeux sur elle-même, amoureusement. À moitié nue. Elle ne s'était jamais montrée ainsi à personne dans sa vie qu'à moi. C'était trop tard. À 75 ans passés, elle ne se montrerait plus jamais à personne d'autre qu'à moi. Il fallait que je la regarde le temps qu'elle décidait. Il se dégageait du corps de Mademoiselle Barbet une terrible odeur. On ne pouvait s'y tromper. La première fois qu'elle se montra à moi, je compris enfin le secret de cette mauvaise odeur. Je la reconnus, qui flottait dans la maison, odeur sous-jacente au parfum d'œillet dont elle s'inondait et qui se dégageait des armoires, qui se mêlait à la moiteur de la salle de bain, qui stagnait, lourde, vieille de 20 ans, dans les vestibules intérieurs de la pension, et à l'heure de la sieste se dégageait, comme par vannes ouvertes, du corsage de dentelle noire de Mademoiselle Barbet.
Le beau linge, c'est important. Apprends cela. Je l'ai appris trop tard.
Je comprenais dès la première fois. Toute la maison sentait la mort. La virginité séculaire de Mademoiselle Barbet.
À qui montrerai-je mon linge, sinon à toi? À toi qui me comprends. C'est trop tard.
Gémissait-elle.
J'ai perdu ma vie.
Elle attendait un temps et ajoutait...
Il n'est jamais venu.
Ce manque la dévorait. Ce manque de celui qui n'était jamais venu. La combinaison rose incrustée de dentelle sans prix la recouvrait comme un linceul, la gonflait comme une bouille, étranglée par son milieu par le corset. J'étais la seule à qui elle exposait son corps consumé. Mademoiselle Barbet m'avait accepté par faveur dans sa maison, parce que ma mère avait beaucoup insisté. Personne d'autre dans la ville n'aurait accepté de prendre chez elle la fille d'une institutrice d'école indigène, de crainte de déconsidérer sa maison. Mademoiselle Barbet avait sa bonté. Nous en étions complices, elle et moi. Je ne disais rien. Je m'empêchais de respirer. Ses gestes étaient lents. Lorsqu'elle boutonnait les manches de son corsage, je savais que c'était fini, que j'en avais pour une semaine de tranquillité. Je rentrais dans ma chambre. Je me mettais à la terrasse. Je respirais. J'étais dans une sorte d'enthousiasme négatif que provoquait inévitablement en moi la succession des deux spectacles, la visite au zoo et la contemplation de Mademoiselle Barbet. Je souriais aux soldats de la coloniale qui passaient dans l'espoir que l'un d'eux me ferait signe de descendre et me dirait de le suivre. Quand le soir était venu, je rentrais dans la maison infectée de la puanteur du regret. C'était terrible. Aucun homme ne m'avait encore fait signe. C'était terrible. J'avais 13 ans. Je croyais que c'était déjà trop tard. Une fois dans ma chambre, je m'y enfermais, je retirais mon corsage et je me regardais devant la glace. Mes seins étaient propres, blancs. Je pleurais. Je pensais au corps de maman qui avait tellement servi et qui sentait la vanille comme maman tout entière dans ses robes rapiécées. À maman qui me disait qu'elle préférait mourir plutôt que de me voir avoir une enfance aussi terrible que la sienne, que pour trouver un mari, il fallait avoir fait des études, savoir le piano, une langue étrangère, savoir se tenir dans un salon, que la Barbet était mieux indiquée qu'elle pour m'apprendre ces choses. Je croyais ma mère. Je restais donc chez la Barbet 2 ans, moyennant le quart de solde de ma mère et la contemplation hebdomadaire de sa virginité septuagénaire. Cela dura 2 ans, chaque dimanche. Pendant 2 ans, une fois par semaine, il me fut donné d'être la spectatrice d'abord d'une dévoration violente, au stade et aux contours éblouissants de précision, ensuite d'une autre dévoration, celle-là informe, noire. Le bois dévorait et digérait le poulet, le regret dévorait et digérait de même la Barbet. On ne voyait pas se faire la dévoration de sa virginité, on en voyait seulement les effets, on en sentait l'odeur. La succession de ces deux spectacles intervenait dans ma vie avec la force d'un principe éducateur, ou, si l'on veut, avec la justesse déterminante d'un diapason de l'horreur, qui fit que je n'éprouvais de véritable aversion que devant un certain genre d'horreur que l'on pourrait qualifier de morale, idées cachées, vices cachés, maladies inavouées, et qu'à l'inverse, je n'éprouvais nullement l'horreur des assassins. Une seule catégorie d'êtres humains me semblait appartenir vraiment à cette idée que je me faisais de l'espèce, et c'était bien entendu les prostituées. De même que les assassins, les prostituées, que j'imaginais à travers la jungle des grandes capitales, chassant leur proie qu'elles consommaient avec l'impudeur du bois, m'inspiraient une égale admiration. Lorsque ma mère désespérait à me marier, la barbée m'apparaissait aussitôt, et je me consolais en me disant qu'il me restait le bordel, que fort heureusement, en fin de compte, il resterait cela. Je me le représentais comme un temple de la défloration. Je me figurais que les filles se mettaient un masque sur le visage pour y pénétrer. Sans doute pour y gagner l'anonymat de l'espèce, à l'imitation du boa, porteur idéal du masque nu, virginal. L'espèce innocente, portant seule la responsabilité du crime, le crime ne fait plus que sortir du corps comme la fleur de la plante. Le bordel peint en vert de ce vert végétal qui était celui dans lequel se faisait la dévoration du bois et aussi celui des grands tamariniers qui inondaient d'ombre mon balcon du désespoir avec des séries de cabines rangées côte à côte dans lesquelles on se livrait aux hommes. Ressemblait à une sorte de piscine et l'on y allait se faire laver, se faire nettoyer de sa virginité, s'enlever sa solitude du corps. J'étais sûr que, alors que la barbée n'était vieille que de cela seulement, de n'avoir jamais servi ni aux enfants qui s'y étaient allaités, ni à un homme qui l'aurait découverte. C'était un rongement de la solitude qu'on évitait sans doute en se faisant découvrir le corps. Du moment qu'un saint avait servi à un homme, n'eût-ce été qu'en lui permettant de le regarder, du moment que ce saint avait pu féconder un désir d'homme, il était à l'abri d'une déchéance pareille. De là, le grand espoir que je fondais sur le bordel, lieu par excellence où on se donnait à voir, où on se faisait découvrir le corps. Alors je voyais se lever le monde de l'avenir de ma vie, du seul avenir possible de la vie. Je le voyais s'ouvrir avec la musicalité, la pureté d'un déroulement de serpent, où ma vie serait prise et reprise et menée à son terme, dans des transports de terreur, de ravissement, sans repos, sans fatigue.
Vous fumez, mademoiselle ?
Non, merci.
Excusez-moi, c'est tellement inattendu. Dans un bus indigène, une jeune blanche. Il me plaît, votre chapeau. Il est très élégant. C'est original. Un chapeau d'homme pour une jeune fille. Et vous êtes belle.
Vous êtes qui ?
J'habite Vinland.
Où, à Vinland ?
Sur le fleuve, juste à la sortie. La grande maison avec des terrasses.
Aux balustrades bleues ? C'est une maison chinoise ?
Et je suis chinois.
Restons justement dans le jeu et dans le souvenir d'adolescence avec ce portrait de la mère, extrait du prix Goncourt 1984, L'Amant. Ce roman est un récit de formation. Dans le Vietnam colonial des années 1920, une jeune fille de 15 ans fait la rencontre d'un homme chinois, très riche, de 20 ans son aîné, qui deviendra son premier amant. Roman de l'intimité, de la découverte de l'amour, L'Amant est aussi celui de la quête de soi, dans lequel Marguerite Duras revient sur la relation complexe qu'elle entretenait avec sa mère. Une femme dure et ambiguë qui d'abord désapprouve la liaison de sa fille, mais qui la poussera finalement à rester avec cet homme pour son argent. Après s'être donnée à lui, la narratrice pense à sa mère et se confie à son amant. Je revois encore le visage et je me souviens du nom. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre et à un jardin à ciel ouvert. Les plantes sont mortes de chaleur, entourées de balustrades bleues comme la grande villa de Sadek, étagée de terrasses qui donnent sur le Mekong. C'est un lieu de détresse, naufragé. Il me demande de lui dire à quoi je pense. Je dis que je pense à ma mère, qu'elle me tuera si elle apprend la vérité. Je vois qu'il fait un effort et puis il le dit. Il dit qu'il comprend ce que veut dire ma mère. Il dit « ce déshonneur ». Il dit que lui ne pourrait pas en supporter l'idée dans le cas du mariage. Je le regarde. Il me regarde à son tour. Il s'excuse avec fierté. Il dit « Je suis un Chinois ». On se sourit. Je lui demande si c'est habituel d'être triste comme nous le sommes. Il dit que c'est parce qu'on a fait l'amour pendant le jour, au moment de la culminance de la chaleur. Il dit que c'est toujours terrible après. Il sourit. Il dit que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas, c'est toujours terrible. Il dit que cela passera avec la nuit, aussitôt qu'elle arrivera. Je lui dis que ce n'est pas seulement parce que c'était pendant le jour qu'il se trompe, que je suis dans une tristesse que j'attendais et qui ne vient que de moi, que toujours j'ai été triste, que je vois cette tristesse aussi sur les photos où je suis toute petite, qu'aujourd'hui cette tristesse, tout en la reconnaissant comme étant celle que j'ai toujours eue, je pourrais presque lui donner mon nom tellement elle me ressemble. Aujourd'hui, je lui dis que c'est un bien-être, cette tristesse, celui d'être enfin tombé dans un malheur que ma mère m'annonce depuis toujours quand elle hurle dans le désert de sa vie. Je lui dis, je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit, mais je sais que cette chambre est ce que j'attendais. Je parle sans attendre de réponse. Je lui dis que ma mère crie ce qu'elle croit comme les envoyés de Dieu. Elle crie qu'il ne faut rien attendre, jamais, ni d'un quelconque état, ni d'un quelconque Dieu. Il me regarde parler. Il ne me quitte pas des yeux. Il regarde ma bouche quand je parle. Je suis nu. Il me caresse. Il n'écoute peut-être pas. Je ne sais pas. Je dis que je ne fais pas du malheur dans lequel je me trouve une question personnelle. Je lui raconte comme c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme, rien qu'avec le salaire de ma mère. J'ai de plus en plus de mal à parler. Il dit « Comment faisiez-vous ? » Je lui dis qu'on était dehors, que la misère avait fait s'écrouler les murs de la famille et qu'on s'était tous retrouvés en dehors de la maison, à faire chacun ce qu'on voulait faire. Des vergondés on était. C'est comme ça que je suis ici avec toi. Il est sur moi, il s'engouffre encore. Nous restons ainsi, cloués, à gémir dans la clameur de la ville encore extérieure. Nous l'entendons encore, et puis nous ne l'entendons plus.
โอ้ดอกบัวทองบานในหนองน้ำใสเกิดบัวใบในตม
Le cadre dans lequel se passe l'action de un barrage contre le Pacifique n'est nullement imaginaire. Il s'agit très précisément d'une ex-colonie française des environs de 1925-30. C'était la grande époque.
Bien avant la parution de L'Amant, Marguerite Duras avait fait de la famille un thème central de son œuvre. Dans son ouvrage aujourd'hui célèbre, Un barrage contre le Pacifique, roman autobiographique qu'il a révélé au grand public dans les années 50. Là encore, la romancière réécrit sa propre histoire, celle de son enfance en Indochine, marquée par la misère, le scandale, mais surtout par sa relation avec sa mère. Dans le roman, Duras raconte comment celle-ci la soupçonnait de se prostituer auprès d'un homme riche qui lui avait offert une bague. Quelques années plus tard, après l'adaptation du roman au cinéma par René Clément, Marguerite Duras écrit un article publié dans l'Observateur littéraire le 8 mai 1958. Elle explique quelles ont été ses difficultés à écrire sur cet épisode de sa vie et elle avoue que c'est en fait à cause de sa mère qu'elle en est venue à écrire des romans. L'article s'intitule « La littéralité des faits ». Il fait partie des textes inédits présents dans l'édition de la Pléiade. En voici un extrait.
Je crois que j'ai eu vraiment des difficultés pour faire ce livre. Quand on a vécu la chaleur tropicale, la boue, l'inconfort, justement l'idée de m'en servir dans un livre posait un problème. C'est la première fois que je parle de ça, du travail que j'ai eu à faire pour faire rentrer ma mère, mon frère, moi-même, l'Indochine, toutes les souffrances des paysans de la chaîne de l'éléphant, les enfants morts du choléra, etc., dans un livre. Cet article est impudique, nécessairement. Et je vois que je suis en train de faire cet article bien qu'impudique. Pour une fois, je m'en fous d'être impudique. Pourquoi je m'en fous ? Parce que je crois que de temps en temps, l'impudeur est irrépressible et saine. Lorsque je me suis trouvé devant ma mère, devant le problème qui consistait à faire entrer ma mère dans un livre, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Et oui, j'ai cru que j'allais abandonner le livre, et souvent la littérature même. Et puis, oui, c'est à cause d'elle que je me suis mis dans la tête de faire de la littérature, qu'il m'aurait été pénible de faire autrement. Je ne pouvais la résoudre qu'ainsi. C'est à partir de la passion que j'ai éprouvée à tenter de la résoudre que je me suis rabattu sur la littérature. C'est sans doute là ce que j'ai jamais dit de plus vrai sur le goût que j'ai d'en passer par les romans pour m'éclaircir les idées. Des gens seront sans doute gênés par ce texte. Cela m'est parfaitement indifférent. Je n'ai plus rien à perdre avec Barrage contre le Pacifique, même pas la décence, puisque c'est en l'écrivant que j'ai encouru le risque de l'indécence et que celle-ci est maintenant publique. Et j'en suis contente.
Mange pas ?
J'ai pas faim. Mais mange-toi, à ton âge, t'en as besoin.
Et moi, tu t'inquiètes pas si je mange ou pas ?
Après la mère, une autre figure familiale fréquente dans l'œuvre de Duras, le frère, extrait de La vie tranquille. Publié en 1944, un an après Les Impudents, ce deuxième roman de Marguerite Duras est longtemps resté son meilleur succès de librairie. Sous un titre provocateur, elle y développe un matériau plus autobiographique où apparaissent déjà les personnages clés d'un barrage contre le Pacifique et de l'amant. La mère, bien sûr, que nous venons d'évoquer, mais aussi ce frère, objet d'un amour absolu, violent, incestueux, que Marguerite Duras décrit comme l'éternité d'un amour éblouissant, inconsidéré, puni. Voici un extrait de la première partie du roman. Nicolas, le frère de Françou, la narratrice, a tué, à la suite d'une bagarre, l'oncle Jérôme, qui avait dilapidé leur argent et vivait au crochet de la famille. Le jour de l'enterrement, la femme de Nicolas, Clémence, le quitte. Le soir même, Nicolas invite à la table familiale une ex-petite amie, Luce, qui espère prendre la place de Clémence. Sous le regard de Tienne, un colocataire, François assiste, impuissante, aux prémices de leur histoire et ne reconnaît plus son frère. À table, elle nous montrait comment il fallait rire. Tranquillement, en mangeant, elle riait dans la figure de Nicolas. Lui se forçait à être sérieux et cependant on devinait qu'il aurait ri de tout, au moindre prétexte. Ce n'était plus le même frère. Je le gênais vaguement. Il ne savait plus que regarder, que dire, comment se servir de ses mains pour boire et manger. Une joie dangereuse l'étouffait. Elle giclait parfois de lui dans un mot, dans un rire, dans un geste qu'il n'avait pas su retenir. J'avais l'impression qu'il pourrait en mourir. Il cherchait à se lancer une fois pour toutes dans un flot de rire naturel où l'importance et l'orgueil qui l'étouffaient depuis l'affaire de Jérôme seraient emportés. Il regardait de tous côtés, il se retournait même et ses mains tremblaient de la même recherche que ses yeux. Luce était en face de lui, il la cherchait encore. Il n'y croyait pas, il ne la voyait pas. Il aurait voulu avoir encore à lui apprendre que c'était lui qui avait tué Jérôme. Le repas avançait. Parfois en parlant, elle prenait la main de Nicolas dans la sienne, mais il ne la laissait pas faire et la retirait vivement. Luce riait de plus belle. Elle disait qu'elle le savait depuis longtemps que Nicolas était bizarre. Elle n'aurait pas dû dire cela. J'ai eu peur que Nicolas ne se ressaisisse, mais il n'a pas fait attention. Tout le monde écoutait Luce avec un mélange de ferveur et de distraction, comme une musique. Il y avait des années que Luce et Nicolas voulaient connaître le goût de leur bouche. Il existait entre eux, depuis le mariage de Nicolas, une vieille querelle muette, jamais vidée. Et Nicolas était un peu brusque avec Luce, parce qu'il ne voulait pas résoudre encore cette querelle. Il ne voulait pas être heureux aussi vite. Il n'entendait pas savoir qu'il était déjà heureux. Il aurait eu du remords à quitter tout de suite sa vieille tristesse. Lorsque Luce disait qu'il était bizarre, cela n'avait pas de sens. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de retrouver mon ancien petit frère. Bizarre. Nicolas dansait dans ma tête au-dessus de ce mot, âgé de tous les âges, qu'il avait eu successivement, tournait autour, s'en échappait et y rentrait sans cesse, tantôt tout petit comme Noël, tantôt suant et tremblant de sa bataille avec Jérôme. Tel que je le voyais là ce soir, il se tenait sur la crête de ce mot vague, mince, rêveur, comme un danseur. D'une minute à l'autre, il allait sombrer dans le bonheur. J'aurais voulu qu'il se souvienne de moi, qu'il me regarde. Simplement prendre ma main et l'embrasser. Se rappeler par exemple que j'étais là quand il a tué Jérôme. Que nous parlions ensemble une dernière fois de ce matin-là comme d'une chose de notre amour qui était à nous deux seuls. Mais justement, il évitait de me regarder. De cela, il ne parlerait plus désormais qu'à Luce. Et c'est pourquoi, très loin, au-delà de ma joie, je me sentais un corps triste, sans frère. Nous parlions surtout de Nicolas. d'un Nicolas d'avant son mariage, de son enfance. Il arrivait que je sois mêlée au récit que l'on en faisait. Luce nous a rappelé nos rencontres sur les berges de la rivière pendant les premiers étés que nous passions au village. Tienne se levait pour aller chercher de nouvelles bouteilles de vin. Tout le monde avait soif. C'est sans doute parce que Tienne lui-même était un peu gris qu'il avait l'air de se rappeler lui aussi comment Luce et moi nous avions failli étouffer Nicolas en lui apprenant à siffler dans une tige de sureau. Et de notre épouvante et de notre acharnement ensuite à continuer ce jeu terrible malgré la peur que nous avions eue.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis indolente, mes yeux sont vagues, vagues, vagues. Je balance mes hanches vaguement. Mes lèvres remuent, fardées de mots si vagues, vagues. Les passants hésitent en me croisant. Le temps maudit toujours les presses. Le temps si lent pour celle qui attend. Le temps me berce de paresse, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent esservi de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs. Je suis si triste quand les hommes vagues, vagues, vagues se reposent dans mes bras vaguement. Vaguement divaguent dans leur sommeil si vague, vague. Quand ils dorment, ils ressemblent aux enfants. Le temps maudit toujours m'oppresse. Le temps qui va, son lent balancement. Le temps emporte ma tendresse, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent esservi de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs.
Et pour conclure, un autre sujet d'inspiration cher à Duras, le bord de mer. Voici l'une des chroniques que Marguerite Duras a écrite pour le quotidien Libération, extrait de l'été 80, titre du recueil réunissant 10 de ses articles. C'est Serge Julie, directeur de la rédaction du journal à l'époque, qui propose à Duras en cette année 1980 d'écrire sur les sujets de son choix. Elle accepte et rédige ses articles à Trouville pendant l'été. Le recueil, qui paraît un an plus tard, se veut un égarement dans le réel. On y trouve des réflexions sur l'actualité, mais aussi sur son quotidien, et de longues digressions sur les personnes qu'elle rencontre, sur ce qu'elle voit. Dans l'article numéro 10, Duras se trouve dans une chambre face à la mer. Elle regarde sur la plage deux silhouettes qui marchent, et elle imagine leur histoire. Ce texte sera adapté au théâtre sous le titre La jeune fille et l'enfant, par un metteur en scène qui était aussi le dernier compagnon de l'auteur, Yann Andréa.
Les marées de septembre sont là. La mer est blanche, folle, folle de folie, de chaos. Elle se débat dans une nuit continue. Je suis dans la chambre noire. Vous êtes là. Nous regardons dehors. La mer est ce passage des deux formes lointaines de la jeune fille et de l'enfant. Elle marche le long de la blancheur sur la nudité, sur la plage. Je vois le gris des yeux de l'enfant, remplis des cristaux, du regard, leur brillance humide, leur chair. Je vois le gris profond et uni de la mer. Je vois la forme de leur corps, les espaces de la pluie tombante et les espaces ancrés de la pluie à venir. On ne les voit plus. Ils ont dépassé la rangée des cabines de bain. Ils ont dépassé le pavillon noir de septembre. Le drapeau rouge du danger. On attend. Et on voit que non, qu'ils réapparaissent, qu'ils n'ont pas continué vers l'embouchure de la Touque. Qu'ils reviennent, oui, qu'ils reviennent de ce côté-ci du monde où des cars sont venus pour chercher l'enfant. Voici, je les vois. Je la vois, elle, chanter. Elle ne dit pas les paroles, bouche fermée, le chant seulement. Elle marche loin du corps de l'enfant. Elle ne le regarde pas. L'enfant la suit. Il marche loin derrière elle. Il sait qu'elle ne veut pas qu'il s'approche. Il le sait. Il la regarde. Il sait qu'elle ne se retournera pas. Elle ne se retournera plus. L'a-t-elle déjà vue à jamais? Cela serait-il fait déjà? Le regardera-t-elle encore une fois? Je ne sais pas. Je vous regarde. Vous ne savez pas. L'enfant marche vers elle un peu plus vite. Il l'atteint, atteint sa main, la touche. Il essaie de la prendre, mais cette main reste froide et morte, ouverte. Elle n'a pas pris la main de l'enfant. Alors l'enfant s'est arrêté. Il a regardé qui continuait. Il a regardé la mère et puis il est reparti derrière elle. Il l'a rattrapée. Il s'est tenu à la distance qu'elle a désirée qu'il reste d'elle. Je me suis souvenu qu'un soir, c'était au début de l'été, elle lui avait demandé « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Il avait cherché à comprendre la question. Il avait cherché encore et puis il avait dit « Je ne sais pas ». Puis il lui avait demandé ce que c'était pour elle et elle avait répondu avec sa lenteur à lui. Elle lui avait dit « Comme toi, la mère ». Elle avait attendu. « Tu le savais ?» Il avait fait signe. « Oui. »
Et voilà, c'est la fin de cette première émission consacrée à Marguerite Duras en compagnie de Michael Lonsdal. Merci encore, Michael.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission en partenariat avec le magazine littéraire a été réalisée par Xavier Pestudia, avec Philippe Palares à la technique, et elle a été préparée par Estelle Gap et Laura Elmaki. We'll be right back.